Second poteau Pavard.
18h, 20h, c'est Vincent sur Radioscoop.
Bon début de soirée, merci d'être avec nous, c'est le 18h, 20h. J'espère que tout le monde va bien. Dans un instant, la suite des tubes. Mais d'abord, il est la voix du foot sur TF1, mais pas que. Voix aussi du hand, il a aussi commenté du basket sur Canal+, au tout début de sa carrière. C'est un journaliste que vous avez l'habitude d'entendre, notamment maintenant, pour les matchs de l'équipe de France. Lui, c'est Grégoire Margoton. Bonsoir Grégoire.
Salut à tous.
Comment ça va Grégoire? On est ravis de t'accueillir sur l'antenne de Radioscoop.
Mais ça va, je suis un peu en mouvement, il y a des travaux à côté de moi, mais ça devrait être bon, si vous m'entendez bien, c'est le principal.
D'accord, donc le reste de la semaine, tu fais dans les travaux publics, c'est ça?
Exactement, je fais ravalement de façade, pose de carrelage et...
C'est pratique. Diverses. C'est pratique.
Bon, je n'ai jamais autant harcelé un invité que toi, Grégoire, merci de ne pas avoir déposé de main courante.
Non, mais surtout désolé d'avoir été un peu long à répondre, mais tu me l'as fait avant la Coupe du Monde, je crois, et là c'était un peu chaud.
Exactement, mais avant la Coupe du Monde 98, hein. Pas en 2022. On est ravis de t'avoir, surtout qu'en plus Radioscoop ça doit te parler puisque tu es originaire de la région, tu es de Lyon, donc forcément ça te parle.
Tu m'étonnes, je connaissais Radioscoop, t'étais pas né donc. Donc oui, non, j'ai jamais bossé à Radioscoop, mais j'ai bossé dans une radio. Je payais pour faire une émission à l'époque qui s'appelait Radio Canu. Je sais pas si ça existe encore.
Si, ça bah existe
oui,
encore.
Radio voilà. Canu, là.
Exactement.
Ben voilà, j'ai bossé Radio Canu en bas de la Croix-Rousse.
Première question pour toi, Grégoire, comment on devient la voix du foot sur TF1? Voilà, ça c'est surtout pour les jeunes qui nous écoutent actuellement. Comment on devient journaliste sportif? Comment on devient commentateur de foot?
Je sais pas comment on le devient. On le devient en étant journaliste au départ, hein, j'imagine. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études de langue, de partir à l'étranger et ensuite de revenir pour faire une école de journalisme à Paris. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir été contacté par Charles Bietri à l'époque à Canal+. Pour un stage en sortie d'école, et le stage a duré 24 ans, voilà. Donc après, arriver à TF1, c'est un coup de chance. Il faut quitter Canal+, et j'avais envie de quitter Canal+ depuis quelques temps. Et il faut que TF1 ait envie, et ça s'est trouvé au bon moment, au bon endroit, et à la bonne période en fait, parce que c'est pas mal les Bleus depuis 6-7 ans.
Et tu avais des modèles justement quand tu étais plus jeune qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire ce métier?
Je sais pas si j'avais des modèles partout en fait, parce que je voulais pas forcément être journaliste de sport à 15 ans. Journalisme c'est venu à 16, 17, 17 ans, avec un journaliste lyonnais d'ailleurs à l'époque, d'Europe 1, qui s'appelle Jean-Bernard Cadier, et qui est aujourd'hui à BFM à Washington, qui est un grand journaliste et qui était venu dans mon lycée, qui m'avait parlé de son métier, et j'avais adoré, et je crois que depuis ce soir-là, j'ai envie d'être journaliste. Donc voilà, après le sport, ça aurait pu être en sortie d'école de la politique ou d'autres choses, mais j'ai toujours aimé le sport. Et ça a été le sport parce que Canal m'a proposé de rentrer là-dedans, et que rentrer à Canal en 92, c'était le plus bel endroit du monde.
Et justement, en 1992, tu commences par du basket, tu commences pas par du foot. Et ça, je l'ai appris en préparant cette émission.
Ouais, je commence, mais mon premier boulot, mon premier taf, ça a été au mois de juin 92, d'être en secours, comme on dit, celui qui est en plateau et qui intervient s'il y a une coupure de faisceau d'antenne, au moment où Giorgelli et Eric Bénard commentaient la finale de la NBA entre les Bulls et les Blazers de Portland, entre Michael Jordan et Clyde Drexler. Et en fait, j'ai passé mes nuits à Canal. Ça s'est joué en 4-2, peut-être 4-1, peut-être rapide, au moins 5 ou 6 nuits. Ça a été mon premier boulot. Le faisceau a jamais pété, et j'ai regardé du basket et je suis rentré chez moi à 6h du matin. C'était top.
Et t'as vécu les plus belles années de Canal+, hein, clairement.
Ouais, j'ai pas vécu 84-92, qui était pas mal aussi, mais
oui, c'est vrai.
Une petite rédaction, mais en 92, ça, c'était le début vraiment de jour de foot, de l'équipe du dimanche qui vraiment commençait à s'imposer. Donc c'était, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup, beaucoup de voyages, de matchs, de compétitions. C'était le début des JO aussi. Moi, je suis rentré parce que toute la rédaction partait aux JO de Barcelone en 92. Donc, très rapidement, j'ai pu faire plein de choses. Ouais.
Il y a eu le film du premier samedi du mois sur Canal. Il y a eu la voix du dimanche soir aussi sur Canal+, la tienne. On t'a retrouvé aux plus grandes affiches de la D1, de la Ligue 1 aussi par la suite. Ça ne te manque pas ce rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches avec la Ligue 1?
Non, ça me manque pas parce que je l'ai fait 25 ans et que je l'ai fait tous les week-ends et que c'est long et que j'ai eu la chance et c'est fait, c'est fini de faire plein de Marseille-Lyon, de PSG-Lyon, etc., etc. J'ai fait plein de grands matchs, je suis évidemment, mais non, ça me manque pas. Ce qui me manque un peu plus quand même, c'est quand la Ligue des Champions arrive en 8e de finale et que là on est dans du très, très, très gros football. Ça manque un peu, mais bon, voilà, je vais faire la finale pour TF1 dans 2 mois, donc. Voilà, c'est bien aussi.
Et puis on n'oublie pas que les droits de la Ligue des Champions sont toujours retravaillés et ça peut très bien redevenir un jour sur TF1, qui sait?
On peut rêver. Je ne crois pas trop. Je ne mettrai pas une pièce là-dessus, mais on peut rêver, ouais.
Tu continues de regarder la Ligue 1, tu regardes un peu la concurrence, Prime Vidéo. Et tu penses quoi de la relève de ces journalistes, en plus que tu as eu le plaisir de côtoyer à l'époque de Téléfoot?
Ouais, je les connais, je les côtoyais déjà à Canal. Quand on parle de Julien Brun, par exemple, qui est aujourd'hui à Amazon, je le connais depuis longtemps, il était avec nous sur la Coupe du Monde à TF1, je connais bien Smaïl. Oui, je les écoute, j'écoute leurs consultants aussi, parce qu'ils ont très bons consultants. Je vois ce qu'ils font en plateau, je vois ce qu'ils font autour des matchs. Il n'y a pas de révolution, parce que Canal avait beaucoup révolutionné avant. Mais c'est des gens qui travaillent très bien et qui, la plupart du temps, ont été biberonnés à l'école Canal, donc qui ont une conception du métier qui est très proche de la mienne. Donc voilà, je les écoute évidemment et je les vois heureux, donc c'est le principal.
En 2016, tu as fait le switch entre Canal+ et TF1. Tu l'as dit au tout début de l'interview, tu avais déjà envie de partir de Canal+. Ça s'est fait comment ce transfert ?
Oh, c'était un peu rigolo parce qu'il y avait un plan de départ volontaire à Canal. Et je me disais depuis quelques temps que j'avais envie de bouger et je me suis présenté au plan de départ, c'était au mois d'août. Et en fait, la veille de l'annonce de ceux qui étaient pris au plan de départ, et tous ont été pris, j'ai reçu une lettre qui me disait que j'avais pas droit au plan de départ. Ils voulaient pas me laisser partir. Voilà, j'ai gardé cette lettre parce qu'elle est rigolote. Donc à partir de là, on a discuté avec Canal et on s'est mis d'accord que j'irai jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'au mois de mai, la fin de la saison de Ligue 1. Donc je suis resté 8 mois de plus et pendant ces 8 mois, en fait au mois de janvier, TF1 m'a contacté et ça s'est fait naturellement ensuite, quoi.
Ara Aprican, qui maintenant dirige les antennes du groupe TF1, c'est un ancien de Canal+, ça a facilité le transfert ou pas du tout ?
Oh, pas du tout, parce que je connaissais pas personnellement Ara, je connaissais pas François Pélissier qui est le
patron des sports
à TF1. Mmh. Donc non, c'est lui qui m'a appelé, François, on se connaissait pas et je suis allé chez lui, on a discuté et on n'a pas discuté très longtemps en fait parce qu'il m'a proposé de venir de commenter l'Euro et l'équipe de France et ça me permettait ce que je désirais à l'époque, changer de rythme, je voulais arrêter les week-ends, je voulais avoir un rythme différent et c'était parfait ça et évidemment ça se refuse pas. Mais ça a jamais été un rêve de commenter l'équipe de France finalement, mais voilà, ça s'est fait, ça a jamais été un rêve de faire téléfoot mais ça s'est fait et à chaque fois c'est du bonheur, quoi.
Moi, j'ai une question un peu sur les coulisses, c'est-à-dire que quand tu commentes les matchs, moi, je me suis toujours posé un peu la question, comment tu fais ? Parce que nous, on voit sur grand écran, tu vas nous dire que tel joueur a récupéré le ballon, mais nous, on le voit en tout petit, en haut à droite de l'écran, on veut avoir des coulisses. Comment, toi, tu arrives à définir si tel joueur ? Raconte-nous, parce que pour les auditeurs, on se dit, mais comment il fait pour
aussi.
Le voir ?
Je le vois aussi de plus en plus en tout petit, malheureusement, donc il m'arrive de me planter. De plus en plus, il faudrait que j'aille voir un oculiste, peut-être.
Non, mais est-ce qu'il y a des techniques ? Raconte-nous, est-ce qu'il y a des coulisses tu vois des images plus zoomées ou je sais pas ?
Non, pas du tout. Moi, je regarde 90%, je regarde le stade et 10%, je regarde l'écran.
D'accord.
Je regarde l'écran si je vois un gros plan qui arrive, si je vois un ralenti qui arrive, parce que je le regarde en même temps, par exemple, une faute ou avec le consultant. Mais le reste du temps, je suis entre les deux, mais la plupart du temps à regarder le stade. Donc, ça me permet d'avoir une image plus large, heureusement, et ça me permet d'avoir une vision panoramique plus étendue que celle du téléspectateur et de voir des choses que le téléspectateur peut pas voir après. La description du match, bah les joueurs on les connaît. Si j'arrive pas à décrire et me planter, si je me plante sur l'équipe de France, il y a un souci.
Bien sûr.
Après, si c'est France-Moldavie, je te dis pas que je vais dire le nom de tous les joueurs tout le temps, mais je vais bosser avant et je vais me dire que lui il est arrière droit ou lui il est gaucher ou lui il est chaud ou lui il a des chaussettes jaunes et pas les autres, même si ça c'est pas possible, mais des chaussures violettes et je vais les reconnaître en regardant l'échauffement avant et en mettant des petits pense-bêtes comme ça pour essayer de pas me planter pendant le match.
Mais justement, on reste sur une question coulisse. Ça prend combien de temps à préparer un match de l'équipe de France ?
Ça dépend, mais parce que quand il y a un enchaînement comme ça, par exemple sur 2-3 jours, je prépare beaucoup le premier, c'est-à-dire ça commence une semaine avant, et en tout c'est une quinzaine d'heures réparties sur une semaine. Voilà, je fais une fiche sur un cahier que je fais depuis toujours. Je fais pas ça sur un ordinateur parce que j'ai besoin d'écrire les choses pour qu'elles rentrent dans mon cerveau. Donc voilà, il y a de la préparation sur joueur par joueur, équipe par équipe, des infos, aller voir des images, aller voir des sites que j'aime bien, aller voir la presse étrangère du pays qui joue contre nous, aller voir la fédération étrangère du pays qui joue contre nous, etc., etc. Moi c'est un boulot que j'adore. Je me mets à ma table et c'est un moment vraiment que je changerais pour rien au monde, ça. J'adore la préparation. Après, quand il y a un autre match qui s'enchaîne, par exemple l'Irlande, 2 jours après, j'avais bosser sur l'Irlande et je vais refaire la veille l'affiche complètement avec l'équipe de France et rajouter les nouvelles infos par rapport au match des Pays-Bas par exemple. Mais l'affiche elle sera un peu moins complète et si j'ai vraiment un truc à aller chercher, bah, je suis dans un cahier donc je vais la chercher trois pages avant sur le match des Pays-Bas.
L'homme de terrain à TF1 c'est Saber Desfarge maintenant, donc c'est lui qui est au contact. Exactement, il est pas très loin de chez nous. Donc c'est lui qui est au contact des joueurs.
Très radio scoop hein, quand même hein, du côté de TF1. Entre un Lyonnais, un Clermontois,
c'est
on
pas
est
mal.
Très radio scoop complètement.
C'est très bien.
Donc c'est lui qui est au plus proche, on va dire, du staff et des joueurs. Quand on est commentateur à TF1, est-ce qu'on est également en contact avec ces joueurs pour avoir justement des anecdotes à raconter à l'antenne ou voilà, c'est plutôt le travail de Saber justement?
Bah, c'est plutôt le travail de Saber parce que c'est lui qui toute l'année aussi bosse avec eux sur des interviews pour Téléfoot. Moi, je les rencontre beaucoup moins facilement aujourd'hui qu'à une époque d'ailleurs. Les joueurs, on peut avoir des contacts comme ça de temps en temps. On peut avoir des rencontres aussi à l'extérieur d'un vestiaire après un match, une discussion de 3, 4, 5, 10 minutes. Moi, il m'est arrivé aussi de faire des documentaires où je suis allé voir des joueurs d'équipe de France depuis 2 ans. Donc, j'ai passé plus de temps avec eux. Mais je les connais humainement pas tous. Après, je fais en sorte d'être le mieux renseigné possible, de discuter justement avec sa paire, ceux qui sont au plus proche pour avoir une image plus fidèle des garçons. Mais c'est clair que ça a changé. Je pense que Thierry Roland, qui fumait sa clope dans le vestiaire avec Michel Platini en 1978, je me vois pas aujourd'hui faire ça avec Kylian Mbappé, malheureusement, mais c'est comme ça.
Ah, c'est plus formaté aujourd'hui, c'est ça, c'est plus encadré par le service de com.
Évidemment, ils ont un agent d'image chacun, ils ont un agent normal, ils ont un avocat, ils ont toute une équipe tous autour d'eux qui les cornaque et c'est avec eux aussi déjà qu'on a un premier contact avant de pouvoir rencontrer les joueurs.
Et puis ils font leur propre com aussi maintenant avec les réseaux sociaux et tout, ils ont plus vraiment besoin de la télévision pour faire leur com.
Si tu t'aperçois, c'est ce qu'on a pu se dire il y a 4-5 ans et puis tu t'aperçois que de temps en temps, si tu veux faire passer un message au très grand public, au très très grand public, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu le fais. Tu le fais sur TF1, tu le fais à Téléfoot, tu le fais dans des moments comme ça, plus rarement qu'avant, mais ils savent exactement ce que ça peut leur apporter, donc ils le font encore, heureusement.
Et donc tu peux assister aux entraînements avant ou vraiment pas du tout alors?
Oui, les entraînements, on y va, mais les entraînements, c'est ceux qui sont ouverts à la presse. Après, moi, j'ai des rapports avec le temps et bien avant l'équipe de France, avec Di Stéphane, avec Didier Deschamps. Donc, c'est des gens à qui je peux parler aussi dans d'autres moments un peu plus tranquillement. Voilà, moi, je suis allé voir Didier pour une grosse interview cet été. On avait fait un point juste avant la Coupe du Monde. Enfin, voilà, c'est plus ce qu'on pouvait faire, par exemple, à l'OL, quand moi, je commentais la Ligue 1. Dans les années 90, avec à l'époque Gavard, Ngoti, Maurice, etc., où on arrivait la veille, où on allait au dernier entraînement qui n'était pas ouvert au public, où on passait une heure dans la salle du coach pour parler avec lui de sa semaine, de sa santé, de sa famille, de sa tactique, etc., et qu'on arrivait avec une fiche et plein d'infos et plein de petites anecdotes. Ça, aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Depuis que tu es à TF1, depuis que tu es commentateur de l'équipe de France, donc on l'a dit, hein, t'es arrivé à TF1 en 2016, Grégoire Margoton à la tête des Bleus, entre guillemets, sur TF1, c'est finale de l'Euro, c'est une victoire en Coupe du Monde en 2018, et c'est une finale en 2022. On met de côté l'Euro 2021, hein, qui n'a pas été un franc succès. Mais finalement, t'es encore plus efficace que la mascotte Footix en 1998, Grégoire.
Le vrai Footix, c'est moi.
on savait bien.
Mais en 98, c'est moi qui étais sous le costume. Bon, c'était un petit boulot d'été comme ça qui me permettait de dire mes fins de mois. Mais on a tous un pot hallucinant avec ces générations, parce que j'ai l'impression que celle qui est en train de se mettre en place, elle va nous faire aussi des choses plutôt sympas. Voilà, et puis tu rajoutes le hand, parce que le hand est un sport qui gagne en France avec les femmes et les hommes. À chaque fois, j'ai la chance de commenter des finales championnats du monde, de championnats d'Europe. Et puis, je te rappelle que le championnat d'Europe, c'était sur M6, la finale en 2016. Je dis ça, je dis rien.
Hein, mais, comme par hasard.
Nous, on les a qualifiés en demi-finale contre l'Allemagne au Vélodrome.
Voilà. Quel est ton plus beau souvenir en tant que commentateur sur TF1 avec les Bleus justement? Est-ce que c'est, je sais pas, le match avec Benjamin Pavard, la finale gagnée par les Bleus en 2018? Est-ce que c'est un tout autre match?
Tu m'aurais posé la question il y a 3-4 mois, je t'aurais dit sans doute effectivement Kazan et l'huitième de finale contre l'Argentine. Et depuis 4 mois, c'est clairement la finale. Voilà, je pensais pas qu'un qu'un match de foot pouvait me procurer et visiblement procurer aux Français et à tous ceux qui étaient devant la télé autant d'émotions. Je pense que ce match restera plus dans les mémoires des gens que la finale de 2018, largement. Et pourtant, c'est une défaite à l'arrivée. Et voilà, moi, j'ai rencontré des gens depuis dans la rue, partout, qui me reparlent de ce match-là, qui me racontent où ils étaient, ce qu'ils ont vécu. Ma femme, elle regardait jamais le foot, elle était avec moi, elle pleurait, enfin, etc., etc. Il y a eu des émotions et c'est vrai que c'était un truc à commenter c'était génial à commenter, même s'il y a une défaite, c'était
alors,
la 75e minute, c'est un grand moment, quoi.
Alors que pourtant, en effet, le match n'était pas bon jusqu'à la 80e. Pour nous, c'était pas beau à voir.
Ça a failli être la pire finale de Coupe du Monde de l'histoire et ça a été la plus belle. Et c'est tout ce qu'on peut se dire à ce moment-là, et je pense que c'est ce que je dis pendant la finale, c'est que le football est un truc absolument dingue pour ça. Parce qu'on est passé de l'horreur au paradis en 3 minutes. Et effectivement, ça procure des choses. Moi, je me serais sans doute pas lâché comme ça il y a encore 10 ans, mais avec l'âge, je crois que j'accède un peu plus facilement à mes émotions. Mais au moment du deuxième but d'Mbappé, d'égalisation, Vicente Lizarazu, il hurle comme souvent, mais il hurle très longtemps. À un moment où il hurle, il a la tête qui va vers la table devant nous et il me dit, au moment où je suis à 2 centimètres de la table, je m'arrête de hurler et j'ai failli tomber dans les pommes. Et moi, pendant ce temps, je suis debout, Mbappé marque, j'ai un deuxième moi qui quitte mon corps pendant une seconde, je suis dans le ciel au-dessus de Doha, mais comme plein de gens...
Chemise ouverte.
Mais pas chemise ouverte, non, mais tout s'est ouvert. Hein, les chakras sont ouverts en plein. Et je suis redescendu dans mon corps 10 secondes après. C'était incroyable. C'est incroyable.
Et ça, c'est ton plus beau match, ton plus beau but, ce serait quoi?
Oula, je sais pas, là, c'est difficile de dire. Le plus beau but, je crois que j'ai jamais commenté, parce que c'est un but incroyable, c'est le plus complet sans doute de tout, c'est le geste le plus incroyable, c'est Dennis Bergkamp avec les Pays-Bas en 98 contre l'Argentine
au Vélodrome,
quart de finale. Ouais, au Vélodrome. Ce but, il est incroyable, il y a tout dans ce but. Mais j'en ai vu tellement, j'ai eu tellement de chance. Après, voilà, celui d'Mbappé, il est beau, celui de Pavard, il est beau, puis j'en ai vu plein, une frappe d'Eden Hazard au Vélodrome, le but de Gourcuff contre le Paris Saint-Germain avec Bordeaux, il y en a eu plein comme ça.
T'en as vécu des jolis moments au Vélodrome, hein. T'en parles beaucoup du Vélodrome.
Mais non, mais je suis pas supporter marseillais.
Non, mais je sais.
Mais au Vélodrome, il se passe souvent des choses, quoi. La plus belle ambiance que j'ai vue de ma vie en Ligue 1, c'était sur un OMPG il y a peut-être 6 ans. Même plus 7-8 ans, c'était incroyable.
Ça me fait plaisir. Quand on parle du but de Pavard, c'est forcément ça.
Second poteau Pavard.
Ce son-là est devenu pour beaucoup de gens, et notamment Sébastien Aglaé en face de moi, aussi culte que Thierry Gilardi qui découvre les images du coup de tête de Zidane en 2006 ou du « Je crois qu'on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible » de Thierry Roland en 1998. Est-ce que tu as conscience de ça, Grégoire?
Non, j'ai pas conscience de ça, parce que si tu parles de ces deux premiers, ils sont pas comparables, les trois sont pas comparables. La seule chose que tu peux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est des paroles qui accompagnent un moment dont tout le monde va se souvenir toute sa vie. Alors je dis pas que si j'avais dit Pavard, frappe, lucarne, machin, ou je l'avais mal commenté, on s'en souviendrait moins bien. Mais le vrai beau commentaire dans les trois, celui qui me paraît être le plus abouti et de très loin, c'est celui de Thierry Gilardi. Parce que là, il y a quelque chose de poétique, quelque chose qui est dans la réalité en même temps, le recul, dans l'admiration et la condamnation, mais comme au niveau qu'on attend et pas le jugement. Bref, ça, c'est du commentaire.
On dirait qu'il parle à un pote qui a fait une connerie, en fait, au moment
exactement.
Où il commente. C'est ouf.
C'est du très haut niveau. Moi, c'est du bon niveau d'accompagnement d'émotions. Mais voilà, je préfère rester dans la tête des gens comme cette musique-là que comme un mauvais moment ou une insulte que j'aurais pu sortir à l'antenne. C'est vrai que c'est mieux, c'est plus positif, en fait.
Et en début de semaine, donc les Bleus ont joué en Irlande. Pavard qui marque un but, d'ailleurs. On va l'écouter.
Non, pas du tout.
C'est
la parade de Maignan.
D'accord. Et donc, j'ai l'impression que, alors, est-ce que c'est peut-être moi qui me trompe, mais que tu l'attendais, ce but de Pavard, pour pouvoir le ressortir un petit peu dans le même genre.
Je l'attendais pas, mais ce qui est marrant, c'est qu'au moment où il marque, il y a le cerveau qui se met en mode, je sais pas. Effectivement, il y a un truc qui a fait que le mot est revenu. Je me suis dit, mais je vais le dire comment? En fait, t'as pas le temps de réfléchir. Donc, voilà, le cerveau, il a cliqué. Alors, j'ai évité le second poteau, mais effectivement, ça devait ressembler un peu. J'étais mieux sur la parade de Maignan.
Ah bah oui,
dernière minute du temps réglementaire, cette fois-ci il a bien frappé. Oh, ça vaut 3 points. Ah oui, ça c'est...
J'adore. On a l'impression que vous êtes dans mon salon. C'est incroyable.
Mais là aussi, c'est comme Mbappé. T'es debout. Tu viens de lancer le truc avec Depay en disant, en imaginant que Depay, il avait joué à Lyon et qu'il connaissait Mike Maignan, qu'il savait que Maignan était fort sur pénalty, qu'il va le louper, évidemment. Paf, il le loupe. C'est exceptionnel. Ça, c'est un grand moment. Ouais, c'était top.
C'est incroyable. Merci en tout cas, Grégoire, d'être passé avec nous. Deux dernières choses. Je te propose, dans un premier temps, de faire un The Voice. On a quelqu'un autour de cette table qui commente du football. Tu vas avoir la possibilité de valider ou de ne pas valider ce commentaire-là. Écoute.
La passe en profondeur pour Franck Signorino qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est plus rapide que François Clair. La frappe et le deuxième but du Stade de Reims à l'entrée de cette deuxième mi-temps. Le but de Franck Signorino.
Alors, Signorino et François Clair, on est en 2006.
Ben c'est bien, non ? Je sais pas qui c'est. Bien.
C'est Sébastien Réglet de la rédac, voilà.
Qui est avec nous là.
C'est bien pour la simple et bonne raison que la chose basique, c'est-à-dire que le commentaire devient plus simple et le rythme s'accélère quand on est dans les 20 derniers mètres, il le maîtrise parfaitement. Donc déjà ça, avec ça, et il a une bonne voix en plus. Donc,
c'est gentil,
bravo. Allons-y, validé total.
Oh là, Grégoire Margoton qui dit ça, moi je peux partir, c'est bon, je m'en vais.
Tu le mettras sur LinkedIn.
Ouais.
et aussi, alors, en plus, tu vois, tu le sais pas, Grégoire, parce que tu le vois pas, mais il faut savoir que Sébastien Réglet a exactement la, enfin, pas exactement, mais il a pratiquement la même tête que Julien Brand. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà, donc comme quoi, la vie est bien faite.
J'ai envoyé mon CV.
Et enfin, Grégoire, on termine.
Ça fait des qualités, ça.
On termine avec une question que je me pose. Au final, tu as signé à TF1 pour quoi ? Juste pour avoir des réducs dans les campings paradis ou pour partager un verre avec Joséphine Ange-Gardien pour la grande réunion de rentrée au mois de septembre ? C'est quoi la raison ?
Pour partager un verre avec Joséphine Ange-Gardien, évidemment. Et surtout pour aller voir un jour, et j'y suis allé souvent, Evelyne Delia présenter son journal météo.
Ah oui !
Ah ouais, ça c'est culte. Elle est tellement forte. Non, pour plein de trucs. Et alors, je peux vous le dire, je ne regrette pas une seule seconde. Voilà, ça c'est clair.
Bon, bah bravo en tout cas, bravo pour l'équipe
Merci
de France. Bravo aussi
Merci
pour Téléfoot. Téléfoot, ça avait un petit côté ringard il y a encore 5, 6, 7 ans. Et t'as réussi à lui redonner.
C'est parce que j'ai réussi, mais ça existe toujours et c'est bien que ça existe toujours.
Et c'est un succès tous les dimanches.
Voilà.
Bravo Grégoire, c'était un plaisir de partager ce moment de radio avec toi.
Salut à tous, merci.